Alors, on reçoit au micro du podcast Dolores Trich, qui est enseignante et formatrice. Son mémoire de CAFIPEMF portait sur des expérimentations orientées vers le développement de l'attention en classe. Et elle est donc pilote du groupe d'expérimentatrices et d'expérimentateurs du programme ATOL de Jean-Philippe Lachaud dans le Grand Est.
Alors, bonjour Dolores.
Bonjour.
Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, déjà pour démarrer cet entretien, c'est comment est-ce que vous en êtes venue aux neurosciences à l'école ?
À travers plusieurs constats d'école, on trouvait toujours que nos élèves n'étaient pas assez attentifs, ne mémorisaient pas assez. C'était toujours des constats qui tournaient autour des élèves et de leur attitude. Et donc, je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait pas assez de formation proposée, ou très très peu de formations proposées. Donc je me suis tout simplement auto-formée sur le sujet et j'ai orienté mes recherches plus particulièrement sur l'attention.
Et de là, donc, on fait un bond en avant. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce fameux groupe expérimental ATOL, d'où il vient, comment il est né, et on verra après un petit peu ce qui s'y passe.
Alors, le groupe d'expérimentateurs, c'est à la base une demande de M. Lachaud qui souhaite faire vivre le programme ATOL à travers des séances dédiées pour lui donner du sens et ne pas rester dans la théorie pure et simple de qu'est-ce que l'attention, comment on perd l'attention, l'attention est volatile, comment on reprend le contrôle, en étant un peu plus concret.
Alors justement, je rebondis sur le côté concret. Aujourd'hui même, cet après-midi même, c'est pour ça qu'on a la chance de vous avoir au micro, il y a un temps concret, est-ce que vous pourriez en dire plus sur ce qui va se passer, ce que vont produire les enseignants cet après-midi ?
Oui, alors cet après-midi, on va travailler autour des indicateurs qui nous permettent de mesurer les capacités attentionnelles, simples, juste les capacités attentionnelles, c'est-à-dire non parasitées par d'autres activités ou d'autres compétences.
Et donc, une fois que vous aurez fait cette séance, vous avez, je crois, un lien avec justement Jean-Philippe Lachaud par rapport à ses recherches, parce que vous êtes la coordinatrice du groupe. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste votre rôle de coordinatrice dans ce projet ?
Alors, mon rôle, il y a plusieurs missions, en fait. Une mission d'animation, donc comme cet après-midi, où je vais venir apporter de la théorie, mais en même temps aussi de pouvoir revenir sur les pratiques des collègues pour lever certains freins, d'avoir des discussions autour des expériences et des initiatives, ou bien parce qu'on peut aussi adapter, et c'est tout à fait recommandé d'adapter, ou bien encore, comme cet après-midi, co-construire ensemble et puis ensuite faire des remontées à M. Lachaud pour lui apporter ce que l'on a construit et éventuellement nos questions et nos demandes.
Alors il semble que les enseignants soient très friands de ce travail autour des apports de la recherche, avec des chercheurs. Là, on est un peu dans le cadre d'une espèce de recherche-action, même si c'est appelé ici en tout cas un groupe expérimental. Quelle richesse vous voyez à ce travail ? Alors, vous êtes directement en relation avec le chercheur, mais quelque part, l'équipe à travers vous, enfin l'équipe d'enseignants expérimentateurs à travers vous aussi. Quels apports, quelle richesse, au-delà du programme en eux-mêmes, ils peuvent voir là-dedans, si je m'exprime bien dans ma question un peu longue.
Alors déjà, de pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils font en tant qu'enseignants, parce qu'il y a des activités qu'ils mènent en classe, il y a de la pédagogie et des gestes professionnels qui sont tout à fait légitimes, mais on ne sait pas mettre de mots en lien avec la recherche. Et déjà, ça, c'est vraiment très intéressant. La deuxième chose, c'est de pouvoir transmettre ça aux élèves, puisque le cerveau est le premier outil de travail des élèves et que par le manque de formation, on ne propose pas assez aux élèves des activités permettant de découvrir le cerveau et de pouvoir comprendre que l'attention est très volatile et qu'on peut reprendre le contrôle sur cette attention. Et donc, en apportant aux enseignants la lumière de la recherche, on arrive à avoir des changements de posture et des changements de gestes professionnels.
Alors, ça nous fait rebondir, justement, là, vous nous avez dit, à cause du manque de formation, donc, et vous nous en avez parlé tout à l'heure, un petit peu dans le déclencheur qui vous a fait vous orienter vers justement, des recherches sur l'attention en classe. Vous avez travaillé dessus, notamment pour votre CAFIPEMF, est-ce que vous avez des pistes à proposer aux enseignants de formation sur l'attention de leurs élèves et plus largement, peut-être, sur les neurosciences en général ?
Des pistes, oui, c'est plus des outils. Moi, je connais trois outils particulièrement que j'ai pu tester ou en tous les cas bien lire. Le premier, c'est découvrir son cerveau à l'école, qui est plutôt destiné aux élèves de cycle 1, mais qui peut être tout à fait adapté à des CP, CE1, cycle 2 en tous les cas. Le deuxième outil, donc c'est l'outil ATOL de Jean-Philippe Lachaud, qui va être plutôt destiné CP, CM2, 6e, mais qui est adaptable. Il y a des adaptations pour la maternelle et sa version collège avec ADOL. Et puis, la troisième ressource que je citerai, c'est Explose ton score au collège, où là, on est plus dans une série de trucs et astuces en lien avec la recherche toujours, mais qui permettent en tous les cas de donner des pistes aux enseignants et pas seulement des constats.
Un exemple de stratégie, vous nous parliez hors micro, et je pense que c'est l'occasion de poser la question, de ces fameuses stratégies très concrètes sur tiens, j'ai une évaluation, j'ai un certain nombre de questions et j'entre vite en panique. Il y a des stratégies pour pallier à ça ?
Oui, tout à fait. Éric Gaspard nous propose, plutôt que de dire aux élèves « si tu ne sais pas répondre à la première question, passe à la seconde et puis à la troisième », Et si l'élève reste bloqué parce qu'il ne sait toujours pas répondre, ses mécanismes de réflexion vont rester bloqués. Donc une stratégie, c'est de proposer à l'élève de surligner ou de mettre un repère devant toutes les réponses qui lui viennent à l'esprit, clairement, directement. Et pendant que l'élève y répond, son taux de stress redescend et il peut avoir de nouveau accès au raisonnement et ensuite répondre aux questions qui lui paraissaient plus compliquées.
On a là un exemple typique de quelque chose qui pourrait paraître naturel pour un enseignant qui a un peu d'expérience, mais les fondements neuroscientifiques apportent le cachet de la science. C'est un exemple que je trouve ultra, ultra parlant. Marjorie, une autre question ?
Alors, Dolores, puisque vous nous avez parlé justement de la formation des enseignants, vous avez donné des ressources que les enseignants peuvent consulter, là, les petits outils que vous nous avez donnés, les ouvrages. Mais ça, ce sont des choses que les enseignants consultent tout seuls. Alors, peut-être que vous auriez peut-être justement d'autres pistes à nous proposer pour que les enseignants puissent travailler ensemble, qu'il y ait une dynamique de groupe qui se crée et qui est peut-être un peu plus rassurante si on veut mettre en place ces éléments-là dans sa classe.
Oui, alors ce qu'il faut quand même redire, hein, c'est que c'est quelque chose qui va être travaillé sur le long terme. On n'a pas de recette miracle et surtout pas en attendre. Même si les outils sont souvent proposés comme étant clés en main, on doit se les adapter et se les adapter aussi dans le temps. Donc peut-être en l'inscrivant au projet d'école, ça permettrait de voir les effets sur plusieurs années.
Ben merci pour toutes ces pistes. Je pense que c'est suffisamment parlant pour les auditeurs du podcast. Merci Dolores.
Merci Dolores.
Merci à vous.